Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui, en compagnie d'Étienne, notre étude sur l'Évangile de Marc. Pour commencer, Sandra va nous lire Marc chapitre 11, versets 27 à 33.
Ils retournèrent à Jérusalem. Pendant que Jésus marchait dans la cour du temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple l'abordèrent et lui demandèrent « De quel droit agis-tu ainsi? Qui t'a donné le droit de faire cela ?» Jésus leur répondit « J'ai aussi une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai de quel droit je fais cela. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Répondez-moi. » Alors ils se mirent à raisonner entre eux. « Si nous disons de Dieu, il va demander pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui. Mais d'autre part, si nous répondons des hommes, alors... » Ils craignaient les réactions de la foule, car tout le monde pensait que Jean était un vrai prophète. Ils répondirent donc à Jésus. « Nous ne savons pas. » Et Jésus répliqua. « Alors moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit j'agis comme je le fais. »
Merci, et le moment est venu d'accueillir Étienne, qui nous accompagne dans notre étude sur l'Évangile de Marc. Bonjour Étienne.
Bonjour Ian, et bonjour à tous.
Jésus et ses disciples sont à présent de retour dans le temple. La veille, souvenons-nous-en, Jésus avait dénoncé les injustices qui y étaient pratiquées, et il en avait chassé tous les commerçants qui exploitaient les pèlerins.
Oui, et c'est bien le contexte de notre discussion. Jésus est revenu dans la cour du temple, dans le récit qui a été lu. D'ailleurs, le temple de Jérusalem est vraiment au cœur du chapitre 11 de l'évangile de Marc.
Et à présent, Jésus est abordé par un certain nombre de chefs religieux.
Oui, et il ne faut pas s'étonner de leur intervention. L'attitude de Jésus dans le temple et ses propos ont été choquants. Ils remettent en question les fondements de la religion juive, telle qu'elle était pratiquée à l'époque. Ces chefs voulaient donc savoir de quel droit Jésus agissait ainsi. Et leur intervention est normale. Ces hommes étaient les gardiens de la foi. Et Jésus avait défié leur autorité. Toutefois, ils n'ont pas un esprit ouvert pour examiner avec attention les propos de Jésus. N'oublions pas qu'au verset 18 de ce même chapitre, nous lisons « Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence, car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. »
Ces chefs religieux sont donc hypocrites. Leurs questions ne sont pas sincères. Quel est le but de leur démarche lorsqu'ils questionnent Jésus?
Oui, ces chefs religieux cherchaient un moyen pour se débarrasser de Jésus. Leur opinion à son sujet était déjà très tranchée. Ils n'étaient ouverts à aucune discussion avec lui. Ils cherchaient tout simplement un moyen pour le piéger. Ils voulaient ramasser des pièces à conviction contre lui, car ils avaient hâte de pouvoir le traîner devant les tribunaux et le condamner à mort. Jésus a enseigné dans la cour du temple pendant plusieurs jours, et les quatre évangiles racontent que ses chefs religieux lui ont alors posé beaucoup de questions pièges. Il est dit très explicitement, par exemple, dans l'évangile de Marc au chapitre 12 et au verset 13, « Ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. »
Oui, et nous constatons que Jésus se montre très prudent. Il ne répond pas directement à la question que ses chefs religieux lui posent.
Non, Jésus va semer la confusion en leur posant à son tour une autre question. Il leur demande leur avis sur le baptême que pratiquait le prophète Jean-Baptiste.
Quelle est l'importance de cette question? Et pourquoi les chefs religieux n'ont-ils pas osé lui donner une réponse?
Le texte qui a été lu l'explique clairement. Ces chefs religieux avaient peur de la foule, car beaucoup parmi elles voyaient en Jean un vrai prophète, tandis que les chefs religieux, eux, ne le reconnaissaient pas en tant que tel. Or, la même situation se représente avec Jésus. Beaucoup l'acclament, beaucoup espèrent qu'il est le roi serviteur promis par les prophètes. Mais les auteurs religieuses, quant à elles, s'opposent à Jésus. Elles ne peuvent admettre que Jean-Baptiste ou Jésus sont envoyés par Dieu.
Et puis, parce que les chefs religieux ont choisi de ne pas répondre à la question de Jésus, Jésus, à son tour, refuse de répondre à la leur.
Oui, et ainsi, ils ne tombent pas dans leur piège. Il ne dit rien qui pourrait être retenu contre lui lors d'un procès devant un tribunal.
Mais Étienne, la question de ces chefs religieux est fort importante et il faut pouvoir y répondre. De quel droit, selon vous, Jésus pouvait-il se permettre de condamner les injustices qui se déroulaient au cœur du temple? De quel droit pouvait-il déclarer que les sacrifices qui étaient pratiqués allaient prendre fin?
Vous avez raison, Yann. Nous devons nous-mêmes prendre position. Jésus est-il l'envoyé de Dieu, oui ou non? Jésus est-il Dieu parmi nous? L'évangile de Marc que nous parcourons relate des événements extraordinaires au sujet de Jésus. Il y guérit de nombreuses personnes atteintes de maladies, il délivre ceux attaqués par de mauvais esprits, il multiplie des pains et des poissons pour nourrir des foules immenses, il dompte des tempêtes qui s'apaisent à un simple ordre de sa part. Jésus fait passer plusieurs personnes de la mort à la vie, et puis Dieu lui-même, à plusieurs reprises, a approuvé son ministère en annonçant d'une voix forte venue du ciel « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». Tous ces miracles, bien qu'attestés par de très nombreux témoins, n'ont pas suffi, apparemment, pour convaincre les chefs religieux que Jésus est réellement animé par l'Esprit de Dieu. Toutefois, ne nous préoccupons pas trop de ces chefs religieux. Aujourd'hui, la question la plus importante est celle-ci. Chers amis, reconnaissez-vous que Jésus est revêtu de l'autorité divine? L'évangile de Marc a-t-il réussi à vous convaincre que Jésus est le roi sauveur, promis par les prophètes, pour accomplir les desseins de Dieu? Nous espérons que oui.
Effectivement, il n'existe pas de question plus importante que celle-ci. Mais revenons aux chefs religieux. Pourquoi ont-ils refusé d'admettre l'autorité de Jésus?
Il est impossible de sonder leur cœur, mais nous pouvons soupçonner les motifs suivants. Tout d'abord, ils avaient probablement peur de perdre la face devant le peuple. Ces chefs religieux soignaient leur apparence et leur réputation en affichant une piété excessive et un grand attachement aux lois et aux traditions. Ils croyaient, en agissant ainsi, enseigner la vérité et ils en étaient fiers. Et voilà que l'enseignement de Jésus remet en question leur croyance sur bien des points. Pour accueillir la bonne nouvelle de Jésus, il leur aurait fallu d'abord admettre leur tort, renoncer à certaines de leurs traditions et changer leur façon de pratiquer la piété. Un tel changement de direction publique leur semblait humiliant, ce qu'ils redoutaient terriblement. Puis, ils avaient probablement peur de perdre leur place. Ces chefs religieux tenaient des rôles importants dans la société juive. Ils détenaient des pouvoirs et exerçaient une certaine autorité. De plus, l'État romain les avantageait bien. Alors estimaient-ils que si Jésus était bel et bien le roi sauveur, leur statu quo, leurs privilèges, allaient être en danger? Craignaient-ils de perdre leur place, bien en vue? Et avec leur place, leur pouvoir et leur autorité?
Merci. Vu ainsi, nous comprenons pourquoi ils voulaient se débarrasser de Jésus.
Oui, ils étaient aveuglés et conduits par l'orgueil. Toutefois, examinons-nous nous-mêmes et considérons si notre propre résistance à l'autorité de Jésus peut être motivée par des peurs similaires. Avons-nous du mal à accepter Jésus tout simplement parce que nous sommes trop attachés à nos traditions, à nos propres coutumes religieuses? Avons-nous peur de perdre la face ou notre place en affichant notre foi en Jésus? Sommes-nous trop orgueilleux pour nous soumettre à son autorité? Chers amis auditeurs, nous vous encourageons à surmonter ces appréhensions, car ce que Jésus offre est de loin supérieur à tout ce qu'il vous appelle à renoncer.
Merci Étienne. C'est ainsi que nous terminons notre étude sur le chapitre 11 de l'Évangile de Marc. Ce chapitre présente quelques difficultés d'interprétation, mais nous remercions Étienne pour ses éclaircissements apportés.
Merci Yann, et merci à tous pour votre écoute, et au revoir.
Merci Étienne. Nous aborderons dans une autre série Marc chapitre 12. Mais le moment est venu de passer à notre courte méditation biblique.
Nous allons poursuivre avec le thème de l'orgueil en nous basant sur une lecture trouvée dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. Ensuite, Uli nous rejoindra pour nous faire part de ses réflexions.
Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé.
L'avez-vous déjà remarqué? Beaucoup d'adolescents pensent déjà tout connaître et s'imaginent bien prendre en main leur vie. Ils croient mieux savoir que leurs parents et ils refusent de prendre en considération leurs conseils, nés de toute une vie d'expérience. Cette obstination occasionne des conflits et parfois des conséquences douloureuses. Oui, beaucoup d'adolescents pensent avoir raison, mais ils découvriront tôt ou tard la folie de leurs mauvais choix et décisions. Cependant, quand il s'agit de marcher avec Dieu, les adultes font à peine mieux que certains adolescents, car tous nous voulons être autonomes, indépendants et avoir raison. Toutefois, même le plus intelligent des hommes, ou le plus fort, ou la plus sage des femmes reste relativement limité dans sa compétence et ce qu'il est possible d'entreprendre. Seul Dieu est doté d'une intelligence supérieure, d'une compréhension des choses incomparables et d'une sagesse infinie. Il est le Tout-Puissant, celui qui peut accomplir tous ses desseins. L'orgueil consiste à s'obstiner à croire que nous avons raison, c'est refuser d'écouter et de prendre au sérieux la sagesse de Dieu, bien qu'il la mette à notre disposition. L'orgueil consiste à vouloir se débrouiller seul dans la vie, en s'appuyant sur ses propres forces, ses compétences limitées, faibles et défaillantes. L'orgueil, c'est refuser de se tourner vers Dieu, c'est ne pas vouloir implorer son aide en temps de besoin. L'humilité, quant à elle, c'est reconnaître ses limites, c'est mettre sa confiance en Dieu, au pouvoir illimité et infini. L'humilité, c'est reconnaître ne pas avoir toujours raison, ne pas tout savoir, ne pas pouvoir tout régler par soi-même. L'humilité, c'est avoir le regard tourné vers celui qui sait tout, celui qui peut tout. Les orgueilleux pensent qu'admettre ses limites, dépendre des autres est humiliant. Toutefois, le texte lu nous rappelle que Dieu élèvera les humbles. Il les comblera en leur faisant hériter et jouir de bénédictions spirituelles qui dureront à jamais.
Merci Uli pour cette leçon importante. Chers amis, nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver bientôt.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir. Et que Dieu vous bénisse.